Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie du magazine de la vie au quotidien. Okapi Service, nous allons parler dans cette seconde partie de l'émission du plan d'industrialisation de la République démocratique du Congo. Quelles sont les stratégies de mise en œuvre? Eh bien, vous savez, la RDC dispose désormais d'un plan d'industrialisation qui sera très bénéfique pour le pays. On n'aura pas des usines seulement dans quelques provinces, mais sur l'ensemble du territoire national. Validé depuis le mois de mars dernier, ce plan va faciliter la tâche aux potentiels investisseurs dans les secteurs industriels. Ils seront facilement dirigés vers certaines zones économiques en fonction de nos priorités, en fonction de nos besoins immédiats. Alors ces schémas permettent aussi à la RDC de ne plus trop dépendre des mines et se tourner vers l'industrialisation. Eh bien, pour en savoir plus, nous recevons aujourd'hui le professeur Kimwanga Eyambo Papi Fernand. Il est expert en économie industrielle. Professeur Papi Fernand, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Bienvenue dans cette émission qui s'intéresse au plan d'industrialisation de la RDC. Alors, nous avons suivi dernièrement le ministre Paluku en parler, en long et en large. Et quelles peuvent être les stratégies de mise en œuvre de ces plans d'industrialisation?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que je cherche quand même à louer les efforts du gouvernement pour avoir essayé de valider un plan qui a fait beaucoup d'années sans pour autant être validé, alors que on ne peut pas penser à l'industrialisation d'une nation dès lors qu'on n'a pas la boussole industrielle. Moi, je l'appelle boussole industrielle parce que c'est le seul guide qui peut permettre à ce qu'aujourd'hui on puisse avoir les différents canaux d'industrialisation. Alors, vous me parlez, je ne sais pas si j'ai bien compris, vous parlez des stratégies de mise en œuvre.
Voilà.
Oui, mais d'abord, pour que ce plan puisse être efficace, il faudrait qu'il y ait consensus ou intervention des autres secteurs connexes à l'industrie. Parce que je dois vous dire que industrialiser une nation, ce n'est pas seulement le fait de détenir les unités industrielles ci et là, mais il faut créer ce qu'on appelle l'interconnexion ou les filières industrielles. Alors, ça met en accommodation certains secteurs en amont et certains secteurs en aval. Donc aujourd'hui là, quelques experts ont validé, mais est-ce que on a permis à ce que les autres forces productives de la RDC, est-ce qu'on a permis par exemple que les mamans qui produisent les matières premières dans le village puissent aussi donner leurs avis? Parce que si cela n'est pas fait, l'industrie, en elle seule, c'est la transformation des molécules utiles en molécules plus utiles. Mais ça doit partir des molécules utiles qu'elles obtiendraient de producteurs en amont, que nous appelons peut-être les mamans, certains producteurs locaux et consorts. Ça, c'est la première donne. Donc, il faut qu'il y ait consensus et intégration des avis des uns et des autres. Deuxième chose, notre plan directeur d'industrialisation ne permet pas de définir les horizons temporels de réalisation des actions à mener. On nous dit, par exemple, que nous devons faire ceci, diversifier l'économie et consorts. Mais on ne nous dit pas qu'à court terme, voici les actions qui seront menées. À moyen terme, voici le coût. Et à long terme, voilà les actions. Troisième chose, la RDC connaît véritablement un problème technologique. Mais nulle part, on parle de ce plan sur le plan technologique il fallait s'approprier certaines innovations. Ça veut dire pourquoi pas faire l'importation des technologies venant d'ailleurs parce que nous ne sommes pas capables de les produire. Donc, les stratégies à mettre en place devraient être diverses. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je constate un document de beaucoup de pages, mais qui ne montre pas à suffisance qu'est-ce que les forces vives devraient faire pour qu'on arrive véritablement à l'industrialisation de la RDC. Étant donné que, monsieur le journaliste, étant donné que l'industrialisation fait appel à la transformation de plusieurs structures. Non seulement les structures économiques, il y a les structures mentales, il y a les structures sociales, il y a même des structures culturelles qui devraient être transformées, parce que vous savez, il y a certaines cultures qui interdisent ou qui sont dans l'agissement négatif de l'industrialisation de la RDC. Alors il fallait aller dans la transformation. Voilà un peu de manière ramassée dans la première vague, ce que nous devons faire au plus vite. Parce que jusque-là, c'est un document chapelé de bonnes intentions, mais qui ne démontre pas à quand devrons-nous atteindre un début d'industrialisation pour la RDC.
Voilà, donc le document est là, mais on ne démontre pas comment procéder pour atteindre cette industrialisation. Mais vous, en tant qu'expert dans les domaines, quel est votre point de vue? Comment peut-on procéder pour rendre effectif ce plan?
Alors, pour rendre effectif ce plan, c'est vrai, le plan est déjà là. Moi, je voudrais déjà qu'on puisse d'abord, qu'on devrait commencer par recenser les activités à mener. Ou par exemple, les activités industrielles à mener. Et on définit les horizons temporels par activité. Et après avoir fait ça, on allait ressortir un plan bien ficelé en termes de réalisation. Je prends un exemple, monsieur le journaliste. Nous avons les industries manufacturières. Nous avons les fruits qui pourrissent dans le Congo central. Mais on ne nous démontre pas comment est-ce que, avec quelle période de remplacement, les jus congolais produits à partir de nos fruits devraient remplacer les jus terrestres que nous importons d'Afrique. On ne nous le dit pas. Alors, c'est pourquoi moi je dis, ce travail, c'est vrai, ça a été fait sur le plan politique.
Oui, professeur, monsieur Kimwanga. Et il y a quelques soucis au niveau de la liaison téléphonique avec l'invité. On va tenter de le rejoindre tout à l'heure, le professeur Kimwanga. Entre-temps, nous allons accueillir un auditeur fidèle, Bofongé depuis Gbadolité. Bonjour. Fidèle Bofongé, bonjour. Voilà, non, il n'est plus en ligne aussi. Tati Mapoukou va tenter de rappeler l'invité. Et merci à tous les internautes qui ont déjà réagi sur la page Facebook de l'émission Okapi Service par rapport à cette thématique. Nous avons par exemple la réaction de Tamboué depuis la ville de Béni. Il dit, nous ne savons pas comment nos autorités vont faire les choses. La fois passée, j'étais intervenu dans ce sujet pour parler de la maladie, d'une maladie qui est... Non, il ne s'agit pas de maladie, nous parlons du plan d'industrialisation de la République démocratique du Congo. Merci de nous appeler au 081-890-63-94 pour participer à cette émission de la vie au quotidien au Capi Service.
Allô?
C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
à ça. Je suis vraiment ravi par la pertinence de vos interviews.
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
Il n'a pas de travail.
Les intouchables, dans ces pays, n'existent pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Bien, nous parlons du plan d'industrialisation de la RDC. Quelles sont les stratégies, les mises en œuvre? Professeur Kimwanga, vous êtes de nouveau en ligne?
Oui, oui.
Bien. Vous étiez en train de parler des secteurs dans lesquels il faut investir.
Oui, oui. J'étais en train de dire par rapport à nos fruits qui pourrissent au Congo central, juste à côté de la capitale.
Mmh.
Alors, je suis en train de me dire, les plans ont oublié tout cela. Ça veut dire on devait aller progressivement. Mais ce que je ne comprends pas, les plans ne définissent pas le plan de désengagement par rapport aux importations. Nous avons les importations même pour les produits de grande consommation, comme les jus, les savons et consorts, alors que nous avons la possibilité d'avoir les huiles de palme. Mais le plan ne dit pas comment est-ce qu'ils traiteront, par exemple, s'agissant des huiles de palme, avec l'INERA, pour que nous puissions avoir la production améliorée de l'huile de palme qui permettra, qui servira des matières premières pour l'industrie des savons. Mais aujourd'hui, nous avons un document qui est certes politique, qui n'a pas été document assorti des avis des techniciens, des scientifiques. Mais je dois dire aussi, monsieur le journaliste, je dois dire une chose, que l'industrialisation, comme nous le concevons, ça doit passer par la multiplication des activités industrielles. Ça veut dire, en amont, on encadre les cultivateurs qui sont en train de peut-être de planter les orangers et consorts. Et on sait aussi comment faire parvenir les oranges, faire les liens de transformation. Tout ça, le plan ne le dit pas. Le plan a été conçu par l'ONUDU, je dois vous dire ça, l'Organisation des Nations Unies pour l'Industrialisation, et ça a été pris en charge par le BNP, le bureau technique du ministère, du cabinet du ministère de l'Industrie. Malheureusement, les services de transport n'ont pas été associés, les services des infrastructures n'ont pas été mis en contribution, parce qu'on sait que pour que les matières premières quittent les liens de leur production vers les liens de transformation, il faut qu'il y ait des voies de communication. Bon, malheureusement, tout ça n'est pas dit. Alors, vous arrivez aussi, il n'y a pas de processus de transformation bien défini dans le plan. Est-ce que nous avons la possibilité d'avoir une production artisanale, mécanisée ou électromécanique? Ça ne peut pas être. Et si c'est électromécanique, nous sommes en mesure d'avoir cette technologie? Non. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On signe des partenariats avec des pays qui sont très avancés dans ces domaines-là pour qu'ils puissent nous procurer des technologies poussées dans ces domaines et nous produisons. In fine, nous serons en train aussi d'assurer l'innovation au niveau du ministère de la Recherche scientifique. C'est comme ça qu'un pays se désengage des importations. Malheureusement, c'est un fait qui est anodin. On importe même les cure-dents, ce qui est anormal. Alors que nous avons les bois. C'est pourquoi moi je dis, ce plan-là ne servira pas à l'industrialisation dès lors que on n'a pas encore fini à identifier quelles sont les activités qui sont prioritairement, qui doivent être en priorité exécutées et définir la portée de l'exécution et la portée temporelle. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je vous dis que ce plan sera comme d'autres documents, d'autres plans qui ont été élaborés et qui n'ont porté aucun fruit.
Bien, nous parlons du plan d'industrialisation de la République démocratique du Congo. Quelles sont les stratégies de mise en œuvre? Vous avez des questions et préoccupations? Appelez au 081 890 63 94 Junior. Nous appelle depuis WhatsApp. Bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kachema. Bonjour aux auditeurs de la Radio Kati.
On vous écoute, Junior.
Oui. Merci de m'avoir apprécié dans cette émission. Vraiment, merci aussi pour cette thématique. Je pense que c'est vraiment pertinent. J'ai suivi notre invité. Il a parlé de l'identification d'abord. Qu'est-ce que nous devons faire? Alors, on parle bien dans notre pays, on fait des plats, mais la réalisation, ça devient difficile. Quant à moi, j'avais proposé d'abord qu'on commence par les produits manufacturés. L'invité dit que non, il y a des fruits qui pourrissent aux différentes provinces. De même que chez nous, il y a des mangues qui pourrissent des fois comme ça, sans avoir industrialisé. Alors, ce qui est important de notre gouvernement, c'est de la mise en œuvre de ces projets. Donc, ce qui serait important, surtout pour nous, la jeunesse, pour avoir du boulot, c'est ça l'essentiel. C'est vraiment la matérialisation qui sera vraiment importante dans ce projet de l'industrialisation.
Merci. Albert Kotolo de Mbandaka, bonjour.
Kotolo de Mbandaka, bonjour.
Bonjour, monsieur le président.
Oui, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'industrialisation de la RDC?
Normalement, ce qui concerne l'industrialisation, pour moi, la première des choses, il faut que nous ayons une analyse que nous appelons l'évaluation des impacts environnementaux. C'est-à-dire, avant d'installer un projet, mais avant d'élaborer un projet, il faut que vous ayez un peu les lignes de conduite et quels seront un peu les avantages, l'avantage.
Veuillez réduire le volume de la radio qui est à côté de vous, Albert. Si vous pouvez réduire le volume, et puis. Oui. Bon, je continue. On écoute toujours la radio qui est à côté là.
Ouais, les formes, c'est quoi pour moi? En fait, quand on a l'industrialisation, c'est déjà un projet. Mais pour élaborer un projet, il faut que nous ayons une analyse environnementale. Parce que nous avons les données, par exemple, l'IEA, l'évaluation d'impact environnemental. Quels sont les avantages et les désavantages de ce projet? Parce que dans le monde d'aujourd'hui, l'industrialisation est à la base de la pollution atmosphérique. Maintenant, chez nous, au Congo, nous n'avons pas encore eu les moyens pour la réduction des changements climatiques. Mais au moment que nous ayons encore les différentes industrialisations qui vont venir dans notre pays contribuera encore de plus à ce qui concerne la pollution. Mais pour tout cela, pour moi, il y aura moyen d'avoir une analyse environnementale.
Bien, merci Albert Kotolo. Merci beaucoup. Junior Watsa nous a dit qu'il est important de produire, d'avoir de se lancer d'abord dans les produits manufacturés et puis vous parlez de l'étude sur l'impact environnemental qui doit être faite avant de lancer l'industrialisation. Professeur Kimwanga.
Oui, monsieur le journaliste.
Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces auditeurs?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je remercie les deux auditeurs, celui de Watsa et celui de Mbandaka. Et pour celui de Watsa, il dit qu'il faut commencer d'abord par identifier, c'est-à-dire passer par l'industrie manufacturière. Et il est du même avis que moi, parce que je constate que ce qui est sûr, il y a des industries industrialisantes qui ne sont pas encore à la portée de la RDC aujourd'hui. Peut-être ce qui est normal, c'est procéder par les industries de transformation, surtout en termes de produits de consommation de masse. Surtout que toutes ces industries-là trouvent leurs matières premières chez nous. Mais la mise en œuvre pose problème parce que notre ami a évoqué aussi le fait que nous avons eu beaucoup de plans, mais qui n'ont pas porté de fruits. Et là, je dis que le plan d'industrialisation, c'est un grand pas qui demande des millions et des millions de dollars. Des millions et des millions de dollars. Donc la mise en œuvre risque de poser problème seulement pour la levée des fonds. La levée des fonds. Alors je me demande où est-ce que le gouvernement va trouver de l'argent, parce que dans le plan, on parle des bailleurs. On parle des bailleurs. Or, des bailleurs, nous connaissons comme ils agissent. Donc, ils donnent au gré de vagues. Donc, il faut que nous soyons prudents, parce que normalement, on devait faire un plan qui est pratiquement très flexible par rapport à l'environnement de la RDC. Sachant que nous n'avons pas de moyens, on peut partir petit à petit avec des unités industrielles compatibles. Malheureusement, comme l'a déclaré notre auditeur de Ouacha, il est tout à fait logique que ce plan risque de suivre les mêmes exemples que ceux de l'autre fois.
Mais professeur, le plan peut être là, et quand les investisseurs arrivent, on leur dit, ben voilà, vous voulez investir au Congo, voilà comment se présente notre plan, voici les zones économiques qui existent, et vous pouvez aller dans tel ou tel autre secteur.
Monsieur le journaliste, je vous remercie. C'est vrai, comme je venais de dire tout à l'heure, que le plan constitue la boussole. Mais vous allez vous rendre compte, la seule zone économique spéciale qui a été déjà tant vantée, c'est la zone économique spéciale de Maluku. Vous êtes au courant de combien de difficultés le gouvernement éprouve pour la mise en œuvre de ces seules zones économiques pilotes. Donc, maintenant, si nous devons avoir toutes ces zones économiques, alors qu'on ne sait pas lever déjà les fonds, parce que l'aménagement du site devrait venir de l'État congolais. L'État congolais devrait aménager les sites, ce qui attirerait les investisseurs à venir. Vous n'allez pas demander aux investisseurs d'amener le courant. Vous n'allez pas demander aux investisseurs de créer des conditions sociales de travail. Ça, ce n'est pas encore fait. Alors, je suis en train de me demander pourquoi voulons-nous aller plus loin sur, on peut dire, voici par exemple les plans de développement ou de mise en œuvre de la zone économique spéciale de Maluku. Et on sait déjà que la Banque mondiale donne de l'argent, mais il y a beaucoup de contraintes pour que cela soit fait. Moi, je ne suis pas contre ce que vous avez dit, mais je ne suis pas du même avis des gens qui pensent qu'il faut laisser le plan non achevé parce qu'on attendra les investissements qui viendront des bailleurs. Le plan devrait déjà déterminer quelle est la part du gouvernement dans ces plans. Mais le plan devrait déterminer que la part du gouvernement, c'est l'aménagement des routes, par exemple. Le plan, vous savez, monsieur le journaliste, nous avons un déficit énergétique énorme. Il y a des industries au Katanga qui cherche industrie minière qui cherche à fermer par le déficit de l'énergie. Nous sommes en train de vouloir créer de certaines alliances avec la Zambie voisine pour que nous puissions avoir importé le courant alors que nous avons les grands barrages de Inga. Donc vous comprenez déjà, il y a une difficulté. Moi, j'aurais voulu, si on m'avait associé, ce que j'allais faire, c'est quoi? Parce que nous sommes très riches en ressources hydrauliques. On devrait avoir un simple mini barrage qui peut produire 8 à 10 mégawatts en termes de courant, peut coûter 100 000, 200 000 dollars. Mais nous avons autant de territoires où nous pouvons jeter dans les différentes rivières ces mini barrages. Vous allez voir que tous les territoires seront électrifiés. C'est ce qui attirerait les investisseurs. Ce n'est pas le plan lui-même.
Oui. Professeur Kimwanga, je vais lire la réaction d'un internaute, Boudjou Isaac, depuis Nizi, en Ituri. Il nous dit ceci, on a promis de monter des véhicules Hyundai à RDC, mais avec quelle énergie? Pas de stabilité électrique, vous voulez vous lancer dans des projets qui sont chimériques et stériles. Le Ghana monte déjà, Toyota, on est fatigué des projets à long terme pour se pérenniser au pouvoir et puis chercher à se faire reconduire. Justin Kalabia depuis Arou, bonjour.
Je dis Daniel Kachama, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio Capi et je vous souhaite une bonne fête de l'indépendance.
Bien, quelle est votre question par rapport au plan d'industrialisation de la RDC?
Merci beaucoup pour la question et de m'octroyer la parole, monsieur. Je dis Daniel. J'ai une suggestion avant de poser mes questions, monsieur Jody.
Oui.
Oui. À ce qui concerne la mise en place des 10 plans d'industrialisation de la RDC, c'est une initiative à saluer car sa concrétisation ne va non seulement booster l'économie de la RDC, mais aussi elle sera l'unique puissance pour pouvoir déterrer aussi l'économie congolaise, monsieur Jeudi, longtemps enterrée par les ennemis du Congo. Et pourquoi, par conséquent, un tel plan de grande envergure pour le développement rapide du Congo nécessite une réflexion à court terme afin d'éviter la promesse utopique qui ne cesse de plonger notre pays dans le gouffre. Et donc, monsieur, c'est une suggestion que je donne avant de poser mes questions. Je ne sais pas si notre invité aussi peut contribuer par rapport à cette suggestion-là. Et maintenant, ma question est celle-ci. Monsieur Jody, quels sont les critères pour installer une industrie dans un minier? Ça, c'est la première question. La deuxième question, monsieur Jody, est parce que ici, chez nous, à Arou, nos commerçants installent en tout cas des industries dans la cité. Hein, dans la cité, si vous partez dans le centre de négoce d'Arioara, c'est à 45 km d'ici, vous trouverez que non, il y a en tout cas des industries qui sont installées dans la cité. Et je ne sais pas si les agents de l'environnement font quoi. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, est-ce que les industries ne peuvent pas polluer aussi l'environnement et avoir des effets nocifs à la population? Voilà mes deux préoccupations, monsieur. Je dis et je vous remercie.
Bien, merci. Professeur Kimwanga.
Monsieur Jody. Oui, j'ai bien suivi nos deux auditeurs. Notre ami Justin de Harou, je crois, et celui qui est l'internaute qui a écrit.
L'internaute qui a écrit, oui. Un instant, on va accueillir un autre de Bounia, héritier, et qui nous appelle de Bounia. Bonjour, héritier.
Bonjour, monsieur Jody, bonjour,
héritier. Quelle est votre question, héritier?
Je voudrais savoir aussi l'industrie, les industries qu'on vend, qui nous seront amenées en RDC, si on viendra transformer les produits manufacturés que nous avons, ou bien les produits qui seront transformés viendront de l'extérieur. La deuxième préoccupation est que je voudrais savoir, depuis 1960, je pense que là, revient toujours dans le gouvernement qui s'achève. Alors, pourquoi les anciens gouvernements n'avaient pas mis en œuvre cette loi de l'industrialisation de la RDC au moment où cela favorisera aussi, ou bien cela permettra ce que beaucoup de milliers de populations aient eu le boulot, soient employés? Alors pourquoi notre gouvernement, ou bien ce programme a été élaboré au gouvernement actuel, ou bien il était prévu auparavant que ce projet soit mis en œuvre? Je dis et je vous remercie.
Bien, merci. Professeur Kimwanga.
Oui, monsieur, je vous dis, je crois que je commence par notre internaute. Et il a totalement raison. Le déficit énergétique aujourd'hui en RDC constitue un handicap industriel. Donc on ne peut pas aujourd'hui parler de l'industrialisation tant qu'on ne fait pas quoi, on ne développe pas, on n'accroît pas notre capacité énergétique. Parce que les industries fonctionnent avec les énergies. Et nous avons la possibilité, les atouts majeurs. Dans le Kivu, on peut avoir les industries éoliennes. Et dans toute la RDC, nous pouvons avoir les industries, les énergies hydroélectriques. Donc, nous n'avons pas à envier un pays ou tel autre pays. Donc, c'est pourquoi je suis du même avis que notre internaute. Et là, je passe à notre auditeur d'Arou, M. Justin. Il dit d'abord, dans sa suggestion, il dit que c'est une initiative à saluer. C'est vrai. Personne ne peut être contre une telle initiative parce que ça tend à valoriser d'abord les ressources naturelles et à pouvoir créer des valeurs ajoutées, des chaînes de valeur qui rendront compétitifs nos produits. Parce que même quand nous sommes dans la ZLECAP, nous y sommes engagés main vide parce qu'on n'a rien à proposer. C'est pourquoi des fois dans une conférence à l'UNIKIN, j'étais en train de démontrer que la ZLECAP, c'est vrai, c'est une bonne voie, mais nous y sommes allés déplumés. Nous y sommes allés main vide. On n'a rien à proposer. Alors, de telles initiatives sont louables parce que ça permet à ce que la République puisse avoir demain quelque chose, pourquoi pas, les jus de fruits à proposer aux pays voisins parce que c'est ça notre efficacité. Pourquoi pas essayer d'exporter aussi les sacs de ciment
qui sont produits made in DRC. Voilà un peu, je suis d'avis avec notre ami Darou. Moi, je voudrais, il a posé des questions. Hein. Quels sont les critères pour installer une industrie? D'abord, une industrie ne s'installe pas de manière vaille-que-vaille. Une industrie s'installe après avoir fait une étude de faisabilité. L'étude de faisabilité est une étude qui permet de définir les différents aspects techniques, environnementaux et même économiques. Quand on dit technique, il s'agit de quel type de technologie à utiliser. Il s'agit par exemple de est-ce que cette technologie ne sera pas polluante à l'environnement et aussi économique pour dire tout simplement est-ce que le projet sera rentable. Voilà les préalables à l'installation des unités industrielles quelque part. Et là, la première question avait une sous-question qui disait qu'à Arou, les industries sont installées dans la cité. C'est une mauvaise approche. Normalement, les industries étant les facteurs de pollution très avérés de l'environnement, ils sont toujours installés dans les périphéries des villes. Ça veut dire qu'on crée, par exemple, des cités industrielles à l'écart des centres-villes, notamment parce qu'il y a des industries très sales, comme l'industrie de ciment. C'est une industrie sale. Pour les gens qui ont déjà pris la route numéro 1 en passant par Lukala, ils voient même la biodiversité autour de l'industrie de Lukala est en train de s'abîmer à cause de la poussière et consorts. Donc, normalement, la logique serait que les industries soient décalées loin des centres-villes pour éviter que les populations qui vivent dans les centres-villes puissent connaître les maladies issues de la pollution industrielle dégagée. Et aussi, notre ami dit, est-ce que les industries ne peuvent pas polluer l'environnement? Je venais le dire tantôt, les industries polluent davantage l'environnement. Et c'est comme ça que, généralement, pour ceux qui connaissent l'environnement, il y a un principe qu'on dit pollueur-payeur. Ça veut dire chaque pollueur devrait payer au prorata de son niveau de pollution. Mais alors, dans notre pays, il est difficile de savoir qui est pollueur, qui ne l'est pas. Parce que l'identification des pollueurs pose problème. Sous d'autres chiffres, on est en mesure de le faire à travers ce qu'on appelle la métrologie environnementale. On sait dénicher que M. X a pollué et au prorata de combien degrés de pollution. Et à ce moment-là, il paye. Mais si vous n'en avez pas, vous allez voir les industries qui vont prendre leurs déchets, les rejeter dans le fleuve. Et le gouvernement n'a pas les moyens, par exemple, de pouvoir savoir quelle est la teneur de la pollution des déchets rejetés dans l'eau. Vous savez que le mercure, monsieur Jody, c'est un poison terrible, trop toxique au cerveau de l'homme. Mais il y a des entreprises industrielles qui se permettent de rejeter le mercure dans le fleuve, dans le cours d'eau. Les poissons ayant consommé le mercure que nous allons consommer, nous humains, ça va inhiber le cerveau et finalement on va connaître des maladies et nous en mourrons. Je passe à notre ami de Bounia. Notre ami de Bounia, M. Héritier, il demande si les matières premières qui doivent être traitées viendront de l'Occident ou d'ailleurs ou seront d'ici. Mais selon les plans d'industrialisation tels qu'ils ont dit, les matières premières seront congolaises parce que nous les avons. Nous avons les fruits, nous avons les produits agricoles, nous avons les produits miniers, nous avons par exemple les calcaires au niveau du Congo central, nous avons le bois, nous avons pratiquement tout ce qu'il faut comme matière afin peut-être parler de la technologie comme nous n'en avons pas. On peut faire ce qu'on appelle l'importation de la technologie. Et depuis 1960, pourquoi les autres gouvernements n'avaient pas mis en place ce plan? C'est vrai. Ce que je vous dis, le plan n'est pas l'émanation du gouvernement actuel. Moi, qui vous parle, j'ai été conseiller au ministère de l'Industrie à l'époque, avec notre ministre, son Excellence, ministre de Rémi Moussungaï Bampalé. Nous avions ce projet-là de l'industrialisation, du plan d'industrialisation. Malheureusement, nous étions en difficulté parce que il fallait mettre tous les acteurs ensemble afin que le plan soit validé. Ce qui était difficile. Félicitations au ministre actuel qui a su quand même mettre ensemble les différents experts qui ont validé les projets. Mais je dois dire à notre ami de Bounia, monsieur Héritier, que c'est un projet qui date de longtemps, qui a été ficelé pour la RDC par l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel. Voilà, monsieur Jody.
Bien, on va accueillir Bob depuis Arou. Bonjour.
Oui, bonjour Jody, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la mise en œuvre du plan d'industrialisation de la RDC?
Oui, Jody, c'est un sujet très important. On parle de la mise en œuvre du plan de l'industrialisation de la RDC. Quand on parle de la mise en œuvre du plan de l'industrialisation, c'est comme si dans ces pays, les industries n'existaient pas. On devrait d'abord commencer par relancer les industries qui existaient, qui sont aujourd'hui en faillite. Si on prend par exemple l'exemple seulement de la province de la Tchopo. À la Tchopo, il y avait la sorgerie, il y a la sauteski, il y a les sels ababoli qui produisaient des mousses, il y a aussi la sucrerie de l'Otokila. Toutes ces industries-là, aujourd'hui, sont en faillite. Est-ce qu'il n'y a pas un plan que le gouvernement a conçu pour relancer ces industries? Parce qu'aujourd'hui, j'étais dans Otouélé, j'étais à Dungu, aujourd'hui je suis à Arou. Les savons que les gens utilisent pour avoir même des mousses, il faut l'Ouganda. Or, sels ababoli produisait des mousses. Cette industrie aujourd'hui est en faillite. Et Sorgerie produisait des savons, produisait des bonbons et d'huile. Aujourd'hui, pour avoir d'huile, pour avoir des savons, il faut l'Ouganda. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de commencer d'abord pour relancer les industries qui existaient et présenter encore un autre plan d'industrialisation? C'était ça ma préoccupation. Merci, Jody.
Merci, Bob. Marcel Didier Passois de Luisa. Bonjour.
Bonjour, monsieur Dodi. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi. Merci également pour la thématique du jour. C'est comme qui dirait, l'auditeur qui venait d'intervenir a passé une nuit avec moi. J'étais en train de dire, monsieur Dodi, avant que nous puissions envisager toute autre procédure d'industrialisation, n'était-il pas bon que l'on puisse d'abord savoir qu'est-ce qu'on peut faire des industries qui ont fait leur histoire dans nos territoires, dans nos villes? Ici, présentement, à Luisa, il y avait une industrie, une société Sokolou qui produisait, qui transformait les cotons et pouvait faire quand même rage. Est-ce qu'on ne peut pas d'abord voir comment est-ce qu'on peut relancer ce qui est déjà en faillite et revoir autre chose? En plus de ça, il nécessite la volonté politique des Congolais, aussi la prise de conscience à tous les niveaux pour que ceci puisse prendre la relève. Et à ce moment-là, on parlera bien de l'industrialisation, tout en valorisant également, tout en valorisant aussi les matières produites localement avant que nous puissions toujours tendre la main vers l'extérieur. Voici ma petite modeste contribution, monsieur Dodi. Bonne journée et bonne continuité de l'émission.
Marcel Didier, merci. Christian, vous êtes en Mbandaka, bonjour.
Oui, je m'appelle Christian Bakemba, je suis en Mbandaka.
Quelle est votre question? Quelle est votre question, Christian?
La question est ici. Pour industrialiser un pays, bon, est-ce qu'ils ont fait d'abord les études d'impact environnementaux? Bon, quels sont les avantages de cette industrialisation? Est-ce que cet avantage-là, la population va la bénéficier, ou soit c'est toujours nos autorités qui font ça pour récupérer, pour récupérer l'argent?
Bien, merci. Professeur Kimwanga.
Oui. Merci beaucoup. Je sens que le thème est très alléchant parce que tout le monde intervient avec passion. Je vais commencer avec notre ami Darou qui dit que...
Pourquoi n'est pas d'abord réhabiliter ces entreprises qui sont tombées en faillite? Il a cité l'Otokila et les autres, la Sauteski. Pourquoi ne pas remettre sur pied d'abord ces entreprises-là?
Tout à fait. C'est le même avis. C'est le même avis que M. Didier, de Luisa. De Luisa, qui disent, ben, ce qu'ils disent est vrai, M. Jody. Ce qu'ils disent est vrai, mais le plan lui-même fait ce qu'on appelle l'état des lieux. Le plan, peut-être parce que ce n'est pas encore vulgarisé, le plan lui-même ressort un état des lieux. D'abord, des industries qui existaient, qui ne sont plus en opérationnalisation, et il y a aussi des industries qui existaient, qui ont connu des difficultés par le fait de la zaïrianisation. Le plan lui-même le dit. C'est vrai, on ne pouvait pas commencer par donner le plan d'industrialisation dès lors que les industries qui existent ou qui existaient n'étaient pas prises en compte. Mais là où je suis en train de dire, c'est quoi? Il y a certaines industries qui ont été montées à la période coloniale, alors que actuellement les conditions de faisabilité et de la relance ne sont plus les mêmes qu'à cette époque-là. Donc, vouloir relancer impérativement une industrie parce qu'elle existait, ça risque de poser problème. C'est comme ça, nous sommes en train d'aller dans le même sens que M. Louisa qui parle, par exemple, de... Non, ça c'est M. Christian de Mbandaka. Mmh. Il se demande s'il y a véritablement des études d'impact environnemental. Mais les études d'impact environnemental ne peuvent venir que pour des projets spécifiques bien déterminés. Et ils ne peuvent pas être contenus dans un plan d'industrialisation. Ça veut dire, on se dit, par exemple, nous avons retenu du Congo central jusqu'à Kinshasa comme zone économique spéciale. Zone économique spéciale de Maluku, par exemple. Mais on se dit, si quelqu'un voudrait venir investir, par exemple, une savonnerie, on lui oblige, avant de commencer, de mener une étude d'impact environnemental. Ça, c'est au niveau de la faisabilité lorsque on a déjà donné des fonds à des investisseurs potentiels qui viennent. Donc, les études environnementales ne doivent pas figurer dans les plans. Par contre, dans les plans, on a des objectifs à long, à court, à moyen, à long terme. Et on a aussi les moyens ou les ressources pour atteindre ces objectifs. Et voilà ce qu'on doit avoir dans un plan d'industrialisation. Donc, l'impact environnemental, c'est quelque chose qui suit. Lorsque un investisseur a déjà sélectionné son secteur qui lui plaît, il peut avant, pas il peut, il doit, avant de commencer, mener cette étude environnementale. On a parlé aussi de coton et consorts. Et c'est tout à fait logique. On dit qu'il faut favoriser les produits locaux. Moi, je me dis toujours, même quand j'étais au ministère, j'étais contre d'abord l'idée que on passe vite par l'esprit de consommant congolais. Parce que vous ne pouvez pas imposer à un consommateur de consommer quelque chose qui ne respecte pas les normes de qualité. Le plus grand problème, c'est quoi au Congo? C'est que les produits congolais, on peut avoir les industries. Mais il faudrait aussi qu'en contrepartie, que ces produits respectent des normes de qualité. Parce que vous allez vendre à qui? C'est la personne qui maîtrise. Supposons que vous vendez quelque chose aux Sud-Africains. Les Sud-Africains sont respectueux des normes. Vous allez vendre aux Zimbabwéens. Les Zimbabwéens sont respectueux des normes. Donc, nous aurons produit pour des biens et services qui ne seront pas achetés par le pays où il y a la demande solvable. C'est pourquoi, moi, je me dis, ce n'est pas un problème de produits locaux. Dès lors que les produits locaux ne respectent pas les normes de qualité, on ne peut pas imposer aux Congolais d'aller de consommer impérativement nos produits. Ils peuvent chercher les produits qui correspondent à leur désir. C'est comme ça dans le plan. Il y a toute une partie qui parle de la métrologie et de la normalisation. Malheureusement, le plan ne ressort pas. Les conflits institutionnels qui existent entre les ministères du commerce extérieur avec l'OCC et le ministère de l'Industrie qui a dans ses attributions la gestion de la métrologie et de la normalisation. Finalement, dans cette guerre-là, le pays est devenu une jungle commerciale où vous avez pratiquement chaque investisseur, chaque industriel qui fait sa loi dans son coin où se retrouve. Pourquoi? Parce qu'il y a ces vides-là. Donc voilà un peu, monsieur Jody, ce que je pouvais dire par rapport à nos trois amis qui sont intervenus.
Bien. Plan d'industrialisation de la RDC, quelles sont les stratégies des mises en œuvre? Nous avons en ligne Junior depuis Ouattara. Bonjour. Junior, bonjour. Bien, Junior n'est plus en ligne. Merci à tous les internautes qui ont réagi. Jean-Claude Kabanga nous a écrit depuis... il n'a pas signalé d'où, à partir d'où. Il dit, le gouvernement a les moyens d'industrialiser notre pays sans effort extérieur. Il est inadmissible que nous dépendions de tout, sauf de rien, qu'il s'agisse des papiers hygiéniques, ils doivent être importés. Pourtant, nous avons tout ce qu'il faut pour en fabriquer. Ici, sur place, c'est question des volontés. Et puis, l'argent du contribuable congolais est entre les mains de quelques individus qui jouissent sans crainte. Notre justice devra être sérieuse, car l'avenir de cette nation est entre les mains de la justice. Comment vous réagissez par rapport à ce que vient de dire Jean-Claude Kabanga, professeur Kimunga?
Je dois dire que notre ami, je ne sais pas, peut-être nous avons ce que... Je n'ai jamais vu une maman qui a un enfant qui dit que mon enfant n'est pas beau. Toute maman dit toujours son enfant est le plus beau de tous les autres. Dire que le gouvernement a des moyens, bon, c'est vouloir se faire un peu beaucoup de beaucoup d'illusions, parce que le gouvernement n'a pas de moyens. Le gouvernement, à l'heure actuelle, n'a pas de moyens pour industrialiser le pays. C'est la raison pour laquelle nous avons dit non, il fallait fractionner ces plans-là. Comme a dit notre ami, notre autre auditeur, qui a dit de commencer par l'industrie manufacturière. Parce qu'on n'a pas de moyens de vouloir s'engager dans tout. Et le recours, à l'heure actuelle, auprès du financement des partenaires est obligatoire pour nous. Dès lors que nous n'avons pas les moyens efficaces ou les moyens suffisants, nous ne pouvons que recourir à cela. Le gouvernement n'a pas de moyens. Vous voyez comment on peine pour certains petits projets ici, mais s'il faut une industrie qui coûte à elle seule pour qu'on monte une industrie, il faut 8 millions de dollars. Vous imaginez combien ça va demander à l'État? Mais même ça, ça veut dire l'industrie elle-même peut coûter 8 millions de dollars, mais en amont, il faut entretenir les gens qui approvisionnent l'industrie en matière première, mais il faut aussi entretenir des voies de communication pour que les produits finis atteignent les vrais consommateurs. Donc, c'est tout un problème sérieux de financement qui se pose en RDC.
Bien.
Donc, le gouvernement n'a pas assez de moyens pour ça.
Valentin nous a écrit, il dit ceci, depuis il est beau, il est dans le Kassai. Pour réussir ce plan d'industrialisation, il faut mettre les moyens financiers, signer les relations de partenariat avec les investisseurs, étudier le milieu, le type de climat. Sa question est de savoir quelles sont les provinces concernées par ce plan. Bon, le ministre Palou avait dit que on va installer des entreprises un peu partout à travers le pays. Et il propose que le Kassai ne soit pas délaissé pour compte. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire, professeur?
En lui disant que le plan d'industrialisation concerne l'ensemble du pays. Donc, si vous prenez très bien, vous allez avoir une zone économique pour Kinshasa. Nous en avons 7 ou 8, je ne sais pas si je ne m'abuse pas. 6, mais vous allez
6
avoir
zones économiques. 6 zones économiques.
Ah, vous dites?
Je crois que c'est 6 zones économiques.
Ah oui, 6 zones économiques. Donc vous allez avoir ici pour Kinshasa, vous allez avoir pour la province orientale, vous allez avoir les Kivu, vous allez avoir les Katanga, vous allez avoir les Kasai. Donc toutes les grandes provinces, les grandes parties linguistiques du pays sont prises en compte, mais chaque partie linguistique en fonction de ses potentialités. Je dois rassurer à notre ami que le plan a tenu compte de tout cela. Donc, point n'est besoin de s'inquiéter.
Bien, on va terminer cette partie et cette émission tout à l'heure, professeur. Et il y a oui. quelqu'un nous a écrit pour dire que s'il faut industrialiser le pays, il est important d'assainir le climat des affaires et puis en finir avec l'insécurité pour n'est-ce pas créer une atmosphère favorable, propice qui va attirer les investisseurs.
Merci beaucoup monsieur Joudi, mais je crois que l'aspect de la question de notre auditeur rentre dans ce qu'on appelle le code des investissements. Le code des investissements qui demande à ce que l'on assouplisse les conditions d'entrée, de création d'entreprise, ce qui a fait que vous avez maintenant le guichet unique en moins de 3 jours. Nous avons la création effective de l'industrie de l'entreprise, mais aussi les facilités à donner ou accorder aux investisseurs selon les zones. Parce qu'il y a les zones A, B, C. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, celui qui va aller investir à l'Équateur a beaucoup plus de difficultés, a aussi beaucoup plus de risques à prendre que celui qui investit à Kinshasa. Alors, celui qui va, par exemple, à l'Équateur, aura beaucoup plus de facilités que celui qui investit à Kinshasa. Ça, c'est l'aspect du code des investissements qui précède pratiquement aussi le plan d'industrialisation. Parce que le plan d'industrialisation est une boussole. Comme on peut alors parler, lorsque nous sommes dans le tourisme, les plans touristiques ou les guides touristiques. Mais ici, le code des investissements définit le mode d'allègement ou de facilité accordée aux investisseurs. C'est là d'ailleurs que nous parlons de l'amélioration du climat des affaires. C'est-à-dire, jadis, pour créer une société, il fallait prendre des mois et des mois. Aujourd'hui, en moins de 3 jours, vous avez une société. Et aujourd'hui, avec, je ne suis pas très politique ici, mais avec si l'état de droit s'en vantait et matérialisé, vous allez voir qu'il y aura moins de tracasseries auprès des ministres qui voudront demander des pots de vin afin qu'ils actent la venue des industries au Congo. Donc, notre ami a totalement raison. On ne peut pas parler de l'industrialisation dès lors qu'en amont, il y a trop de tracasseries qui limitent. Nous, en économie industrielle, on appelle ça barrière à l'entrée. C'est-à-dire on barre la voie aux industries, aux potentiels industriels, à cause ou à partir de quoi? À partir de mesures de restriction, de mesures d'empêchement et aussi de pots de vin, en d'autres termes, la corruption. Voilà un peu ce que je peux dire. Notre ami a raison, mais ça, c'est beaucoup plus le code des investissements que le plan d'industrialisation lui-même.
Professeur Papi Fernand Kimouangayambo, je rappelle que vous êtes expert en économie industrielle. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Excellente journée et à la prochaine.
Merci beaucoup, monsieur Jody.
Na pasi se pona yo utu e komi mola ipongi na zuate mokile komi bololo lopoko na litama lokola mwane tike seko kanisa yo na motema na kolela lokola mule konoka opinanga na bibi na makanisi mokono wana mama tokutana Kinayo, na tunio obi, kozo nise ingali loba na motema na kose pele sengo ya libala. Obi sherie, zala modele. Na komito mwana pasi sepo na yo, utu eko mimola ipongi na zuate. Mokile komi bololo loko kona litama, loko la mwane tike, sepo kanisa yo. Motema na kolela lokola mule konoka opinanga na bibi na makanisi toyoka na kinga ina yo seto kabana na leke paina bino na tunio obi bazongi seringa ipete na pesa ya libala opinanga na wena makanisi ya sala na nimilelo na nimi ya solo Mokili huyu nenge moto wako linga Upinanga na wina makanisi oh! Obia mama yo, koliko kamwa Obia mama yo, koliko sukate Obia mama yo, obiba ya mama yo Tineli mokandara makolela ba motineli eto kwa salama tanga mumie maina mizoro basuziri na koblere obia mama yo oligo kamwa obia mama yo oligo sukate obia mama yo mobimba ya mama yo Obia mama yo, oligo kamwa. Obia mama yo, oligo sukatero. Obia mama yo, obiba ya mama yo. Bamotineli mikanda, akolela. Bamotineli epoke biju, alata. Maina mizongo, basusiri na koplere.
Obia mama yo. Oligo kamwa, obia mama e, oligo sukatemo, obia mama e, obiba ya mama e.
Kamo tindeli mokanda, akotanga akombainye.
Fidèles auditeurs, c'est par ici que s'achève ce magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Merci de nous avoir suivis. Polydor Basunga a assuré la mise en onde. Tati Mapoukou a été à la coordination et la réalisation au micro. Jeudi, Daniel Kachama, tout le plaisir était pour nous de vous servir. À la prochaine.